vous suit.
Voici les titres du journal.
Lézun va encore renforcer son statut de mec du freestyle. D'ici quelques semaines, deux impressionnants tremplins accueilleront leurs premiers athlètes pour des sessions d'entraînement. Cette commune pourra même avenir, on ne parle pas là de fusion, mais de parc naturel régional. Celui de la vallée du Trien, en gestation depuis 4 ans, entre dans sa phase concrète. En course à pied, une nouvelle étape casse-pattes attend les participants du Tour du Chablais à Aigle. Et dans le Chablais valaisan, il y aura aussi beaucoup de dénivelé samedi au programme de la montée d'Illier.
Et pour la météo du soleil pour aujourd'hui, demain, encore du soleil mais avec un peu plus de nuages. On en parle de la météo à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Thierry Nicolet. Bonjour Thierry.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Les CFF ont présenté leur projet d'horaire 2023. Pour notre région, le RER Vaud s'étendra en terre valaisanne. Au lieu de s'arrêter à B, la ligne se prolongera en semaine jusqu'à Saint-Maurice pour être en correspondance avec les trains interrégions en direction du Valais. Mis en consultation du 25 mai au 12 juin, le nouvel horaire sera introduit le 11 décembre prochain.
Backflip, grab, rotation, les figures aériennes vont pleuvoir d'ici quelques semaines à Lézun.
Une structure d'entraînement destinée aux skieurs et snowboarders freestyle est en construction à l'entrée de la station, juste en dessous du Tobogganing Park. Le projet comprend deux rampes de 70 mètres de long et surtout à l'arrivée un big airbag, autrement dit un grand coussin gonflable. Le but est de permettre aux athlètes de pratiquer leur saut en réduisant les chocs et le risque de blessure à l'atterrissage. Si le projet est piloté par une fondation réunissant notamment des membres de l'association Ski Romand, il a d'emblée été soutenu par la commune, comme l'explique le syndic de Lézun, Jean-Marc Cudriot.
On n'est pas un partie prenante financièrement dans la construction. Par contre, on a joué un rôle important, c'est tout l'affectation du territoire, parce que l'endroit où se situe ce big airbag n'était pas affecté pour une infrastructure comme celle-là. C'était une décharge terreuse. Et puis, il a fallu donc faire un plan d'affectation partiel pour pouvoir installer cette infrastructure. Et c'est là que la commune a joué tout son rôle, et c'est bien normal d'ailleurs. Et elle a pris en charge également les frais qui sont liés à ce plan partiel d'affectation. Et à la fin, nous avons pu avoir la possibilité d'affecter le territoire.
Et les raisons de ce soutien communal sont apparues comme évidentes. On retrouve Jean-Marc Cudriot.
C'est une infrastructure qui conforte encore plus l'ADN de Lézun autour du sport et du freestyle. Et puis surtout, c'est une infrastructure qui est 4 saisons. C'est quand même ça qui est très très important, parce que les athlètes pourront s'y entraîner toute l'année, quasiment. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est tout l'effet domino, notamment avec les athlètes qui viendront là, qui pourront se loger sur place, notamment à la Maison des Sports Vaudois ou peut-être même dans d'autres établissements de la station. Et puis après, c'est tout ce qui est en lien avec les centres sportifs.
C'est-à-dire ?
Les athlètes vont aussi s'entraîner probablement dans les salles omnisports, les salles de musculation, vont fréquenter la piscine et ça.
Ce big airbag est donc fortement attendu à Lézun, d'autant que la nécessité d'une telle infrastructure en Suisse romande se fait sentir depuis plusieurs années. Mais un projet comme celui-ci ne se réalise pas en quelques semaines, ajoutez à cela les retards liés à la pandémie. Écoutez Florence Keun, membre du conseil de fondation de Lézun Big Airbag.
On a réussi à faire livrer le bag, le dry slope pour les rampes, etc. avant Noël, mais on a été bloqué par des pièces très spécifiques d'échafaudage qui nous manquaient et qui ne nous permettaient pas de continuer les travaux sur les échafaudages. Donc on a reçu ces pièces. En ce moment, les travaux continuent, ça avance vite. Maintenant, on a un planning assez serré, il va falloir une coordination vraiment bien huilée entre tous les intervenants qui doivent encore travailler sur l'infrastructure, pour faire en sorte que si tout va bien, on arrive à avoir des athlètes qui sautent mi-juin.
Des propos recueillis par Alexandra Claude. Rendez-vous donc à la mi-juin, au plus tôt, pour voir les premiers freestylers virevolter dans les airs à l'entrée de Lézun. Le programme de législature 2021-2026 des polices communales vaudoises a été rendu public aujourd'hui, appuyé par la conférence des directeurs desdites polices communales. Reposant sur trois lignes directrices principales, il vise à donner une orientation et des conditions cadres aux 9 corps de police concernés, afin de répondre aux besoins de la population, d'assurer sa sécurité et d'apporter l'aide nécessaire aux victimes. Mais n'a pas pour objectif de prioriser l'action policière, selon la conférence. Pour cette dernière, il ne faut pas plus que les polices communales et la cantonale. Les polices communales et la cantonale avancent de manière parallèle, d'où la nécessité de développer des synergies pour plus d'efficience et d'efficacité. La pandémie nous a montré que c'est possible, a estimé ce matin le président de la conférence, Jean-Marc Chevalat.
Les habitants de la vallée du Trien et de ses alentours sont invités à des séances d'information cette semaine.
La première a eu lieu hier à Finhaut, la seconde se déroulera demain à la salle polyvalente d'Eviona. Leur but est de présenter l'avancement du projet de parc naturel régional. Lancé en 2018, le dossier entre cette année dans une phase concrète avec la réalisation des premières propositions faites par la population. On peut citer par exemple la création d'un pass mobilité pour favoriser les déplacements doux à travers le parc, qui s'étend de l'Arpie à la cime de l'Est. La labellisation des produits du terroir ou la revalorisation des forêts sont également au programme. Le budget se monte à 2,6 millions de francs pour une période de 3 ans. Florian Piazenta, co-président de Parc Naturel Régional de la Vallée du Trien.
C'est extrêmement aussi important de faire comprendre à la population, c'est que tous les projets qu'on met en avant aujourd'hui, c'est des projets qu'on aurait pu faire dans nos communes, mais qu'on aurait dû payer. Et en fait, le fait de pouvoir se mettre ensemble, eh bien, ça encourage le canton, ça encourage la Confédération à nous aider. Donc dans ces 2,6 millions, eh bien, il y a 1,3 million qui arrivent directement de la Berne fédérale. Ensuite, on a 25% qui arrivent du canton, 20% des communes, et puis il restera 5% à les trouver à travers des partenaires privés.
Les porteurs du projet rappellent qu'il ne faut pas confondre le concept de parc naturel régional avec celui de réserve naturelle ou de parc national. On ne parle pas ici d'instaurer de nouvelles restrictions légales sur les constructions ou l'agriculture, mais plutôt de mettre en lumière les valeurs naturelles et culturelles d'une région. Un sujet d'Alexandra Claude. Une maturité gymnasiale devrait durer à l'avenir au moins 4 ans. Le Conseil fédéral a mis en consultation aujourd'hui une révision de l'ordonnance correspondante. Au cours des deux dernières décennies, le système éducatif s'est profondément modifié, rappelle le gouvernement dans un communiqué. Les textes régissant la maturité gymnasiale doivent être actualisés pour pérenniser sa qualité. Il s'agit avant tout de garantir l'accès sans examen aux hautes écoles universitaires et pédagogiques.
Plus de transparence et d'échanges lors des prochaines crises à traverser.
C'est ce que recommande le Conseil suisse de la science ce mercredi. Le CSS a analysé la façon dont les différents secteurs de notre société avaient travaillé et géré la crise de la pandémie du Covid-19. Si la Suisse en est bien tirée en comparaison internationale, des améliorations ont été recensées. Présidente du CSS, Sabine Sustrunk, donne un exemple majeur.
On s'est concentré, bien sûr, un petit peu sur ce qu'on pourrait encore améliorer. Et là, il y a numéro 1. Clairement, en fait, les données entre les cantons et la Confédération doivent. Le flux de données, ça doit s'améliorer. Et là, il faut déjà avoir un système en place avant que la crise commence. En fait, une crise, il faut déjà avoir ce système en place, que les données, le flux de données entre les cantons et la Confédération marche. On ne peut pas mettre un système dans une crise, un système de données en place et s'occuper de la crise, ça ne va pas. Et ça ne va certainement pas pour le petit canton qui n'a pas des moyens.
Mais vous avez remarqué aussi qu'il y avait aussi peut-être une base légale qui manquait pour cela ?
Ça, c'est absolument correct. Donc, il y a vraiment une base légale. En fait, c'est les cantons qui sont responsables des données. Ou quelquefois, même les cantons n'ont pas une loi pour la protection des données ou que justement de donner les données à la Confédération. Et ça, ça doit s'améliorer.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Frédéric Nejad Toulamy. En tant que commission extra-parlementaire, le Conseil suisse de la science est l'organe consultatif du Conseil fédéral pour toutes les questions qui relèvent de la politique, de la formation, de la recherche et de l'innovation. À l'étranger, la Finlande et la Suède ont officiellement soumis ce matin leur demande d'adhésion à l'OTAN. Des consultations sont en cours entre les alliés pour lever l'opposition de la Turquie à l'intégration des deux pays nordiques dans l'Alliance. Ankara accuse en effet la Suède d'être, je cite, « la pépinière d'organisations terroristes comme le PKK kurde ». La Turquie reproche en outre aux deux pays de ne pas approuver les demandes d'extradition de personnes accusées d'être des terroristes, ainsi que d'avoir gelé des exportations d'armes vers la Turquie.
959 militaires ukrainiens retranchés sur le site sidérurgique d'Azovstal de Mariupol se sont rendus.
C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministère russe de la Défense. 51 d'entre eux ont été hospitalisés à Novoazovsk, la localité sous contrôle des Russes et de leurs alliés séparatistes. Le ministère n'a donné aucune indication quant au sort qu'il réservait à ses prisonniers. Le Bélarus a introduit la peine de mort pour préparation d'attentats ou tentatives d'actes de terrorisme. C'est ce qui ressort d'un décret publié aujourd'hui et cité par les agences russes. Depuis le vaste mouvement de contestation de 2020 contre la réélection de l'autoritaire Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 1994, de nombreux opposants ont été inculpés et arrêtés, justement pour tentative ou préparation d'actes de terrorisme. On ouvre notre page sport avec du hockey sur glace. La Suisse est toujours invaincue au championnat du monde. Après 3 matchs, les Helvètes comptent 9 points. Mais la Nati a livré une performance en demi-teinte hier soir contre le Kazakhstan. Face à un adversaire largement à leur portée, les hommes de Patrick Fischer se sont péniblement imposés 3-2. Ils ont pourtant largement dominé les débats. La statistique de 43 tirs cadrés à 14 en faveur des Suisses est la plus parlante. Mais au terme de cette rencontre, l'attaquant lausannois Damien Ria préférait retenir l'essentiel, à savoir la victoire, la troisième d'affilée.
Je pense qu'ils nous ont pas fait la vie facile ce soir, mais voilà, à la fin, c'est la victoire qui compte et engranger ses points. Je pense des fois, on essaye de faire le beau jeu au lieu de faire le jeu peut-être plus simple et plus efficace. Mais voilà, c'est à nous de tenir ces leçons sur ces matchs qui sont finalement pas si faciles que ça parce que l'équipe en face a vraiment faim de victoire.
Damien Ria au micro de notre envoyé spécial au championnat du monde, Raphaël Chalvera. La Suisse n'aura pas le temps de cogiter. Son prochain match est déjà prévu ce soir à Helsinki. Les Helvètes défieront la Slovaquie sur les coups de 19h20.
En course à pied, Aigle accueille la cinquième et avant-dernière étape du Tour du Chablais.
Une semaine après un passage par Morgin, la boucle chablaisienne retrouve la plaine. Mais ce n'est pas pour autant que les participants auront droit à un parcours moins vallonné. Cette année, les organisateurs locaux ont décidé de rapatrier le départ et l'arrivée de l'épreuve au centre-ville, aux dépens du Centre mondial du cyclisme. Avec ce choix, le tracé de 8,4 km, agrémenté par plus de 200 mètres de dénivelé, emmènera les coureurs dans le vignoble et aux abords du château. Au-delà de son intérêt sportif, le parcours fera aussi office de carte postale pour la commune. Les explications d'Yvan Vouillameau, membre du comité d'organisation de cette cinquième étape du Tour du Chablais à Aigle.
On va faire partir les coureurs vers l'usine électrique des Farettes. Ensuite, ils vont être au frais le long de la grande eau, sous les arbres, en direction des fontaines claires. Ils vont se retrouver derrière l'ancien stand de tir, derrière les cibles. Et puis après, ils vont accéder à, je pense, un des plus beau point de vue de la ville d'Aigle, c'est sur le chemin de Verchier. Et là, il y a un petit passage à niveau, donc où ils vont certains peut-être croiser le train à ASD. Et puis juste après, ils vont déboucher avec une vue magnifique sur Aigle, sur le château. Là, c'est le plus beau point de vue. Et si certains coureurs sont pas trop pressés, ben, qu'ils prennent leur appareil photo avec, ils auront bien du plaisir.
Yvan Vouillameau au micro de Ludovic Turin. À noter que cette cinquième étape du Tour du Chablais est organisée conjointement par la société de gym Aigle Alliance, le FC Aigle et le club d'uni hockey du UHC Eagles Aigle.
En course à pied toujours, la montée d'Illier revient samedi après 2 ans d'absence.
Et surtout deux éditions passées à la trappe, c'était l'an dernier et en 2020. En cause, la crise sanitaire, mais désormais derrière, elle a permis aux organisateurs de remettre sur pied la manifestation qui fêtera au passage sa 11e édition. De quoi réjouir les amateurs de course à pied qui seront toutefois moins nombreux qu'à l'accoutumée. Cette diminution d'affluence se remarque dans d'autres manifestations chablaisiennes. Du côté de la montée d'Illier, on peine à trouver une explication. Tentative pourtant avec son président Thierry Perrin.
Alors c'est possible que les coureurs ont pris l'habitude peut-être d'aller courir pour eux comme ça dans la nature, pas de chronomètre, et qu'ils se disent que c'est peut-être pas plus mal, et puis qu'ils oublient un peu cette compétition, même que c'est une course populaire. C'est dur à cerner pourquoi. On pensait nous qu'après le Covid ça serait parti de plus belle. Et puis là, c'est vrai que ça en baisse partout. C'est dur à expliquer vraiment pourquoi. Est-ce qu'il faut réhabituer tout le monde à se remettre dans le bain? On n'a pas vraiment d'explication comme ça pour le moment.
Pas d'explication sur les causes, mais sur comment faire finalement pour réhabituer les gens à ça. Est-ce que ça va forcément passer par quelques éditions, malheureusement, qui vont se faire un petit peu plus au rabais, avec moins de gens, mais qui va finalement refaire venir le bouche à oreille? Est-ce que vous y avez pensé à cette façon de mettre en avant la course?
Alors oui, c'est possible que ça reparte un peu à zéro comme les premières éditions. Là, on essaye de faire pas mal de pubs un peu partout. On a fait pas mal de flyers. On a toujours notre tombola très attrayante de tirage des dossards pour tout le monde, même les personnes qui ne sont pas chronométrées. On essaie de jouer un peu là-dessus et puis surtout l'ambiance qu'on a à l'arrivée chez nous.
Thierry Perrin répondait à Ludovic Turin. Absente du calendrier depuis 2 ans, la montée d'Illier va donc faire son grand retour. La manifestation qui vivra sa 11e édition se tiendra ce samedi.
L'actu en continu, radiochablais.ca.